Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 12 octobre 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Tout d'abord, les titres. Au Sénégal, remaniement du gouvernement du Premier ministre Amadou Ba, candidat à la succession du président Sall à l'élection de février 2024. Niamey ordonne l'expulsion de la coordonnatrice de l'ONU au Niger. En RDC, arrestation de 8 casques bleus pour exploitation sexuelle. Un officier suspendu. Visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken aujourd'hui en Israël. Tir de roquettes vers Tel Aviv après des frappes israéliennes sur Gaza selon Hamas. La chambre basse américaine, toujours sans speaker ou président, s'enfonce dans la crise. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé à un remaniement ministériel avec quelques changements majeurs et peu de nouvelles entrées dans le gouvernement. Précision de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
Un gouvernement de mission et de combat, telle est l'appellation donnée par le Premier ministre Amadou Ba à la deuxième équipe gouvernementale qu'il dirige sous le régime du président Macky Sall. Un gouvernement avec quelques changements notables. Antoine Félix Diom, ministre de l'Intérieur, très contesté par l'opposition, change de poste et devient ministre du Pétrole et des Énergies. Il est remplacé par Maître Sidiki Kaba, ancien ministre des Forces armées. Ismaël Madior Fall, qui était jusqu'à présent ministre de la Justice, permute avec Aissata Tall Sall, jusque-là ministre des Affaires étrangères. Le président du groupe parlementaire de la coalition au pouvoir, Maître Omar Youm, quitte l'Assemblée nationale pour diriger le ministère des Forces armées. L'autre mesure phare de ce remaniement est le retour de l'inspecteur général d'État, Mohamedou Makhtar Cissé, au poste de directeur de cabinet du président de la République. Une nomination qui coupe court aux rumeurs qui l'annonçaient comme potentiel candidat pour la succession du chef de l'État Macky Sall. Il faut aussi noter l'entrée de 8 nouveaux ministres et ministres délégués dans ce gouvernement qui est considéré par certains observateurs comme une équipe pour accompagner le Premier ministre et candidat du régime en place vers la victoire à la présidentielle de février 2024. Sedina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, regrette profondément l'ordre donné par Niamey à la coordonnatrice de l'ONU, Louise Aubin, de quitter le territoire nigérien dans les 3 jours. Le point avec Nani Talani.
Antonio Guterres regrette profondément cette décision. Cette expulsion va entraver les capacités de l'ONU à accomplir son mandat et perturber le travail essentiel au Niger, où 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric. Il a ajouté que cet ordre est contraire aux règles internationales applicables aux représentants des Nations Unies, réitérant l'engagement inébranlable de l'ONU à rester et à agir pour le peuple du Niger. Madame Aubin, de nationalité canadienne, avait été nommée à ce poste en janvier 2021. Cette décision est motivée par des entraves mises, selon Niamey, par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger à la 78e Assemblée générale de l'ONU en septembre à New York, où le représentant du Niger, Bakary Yaou Sangaré, n'avait pas pris la parole. Les généraux nigériens au pouvoir avaient dénoncé le refus de M. Guterres de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger et ses agissements perfides visant, selon Niamey, à entraver la participation de Bakary Yaou Sangaré à cet événement et saper tout effort de sortie de crise. Dans la sous-région ouest-africaine, le Burkina Faso a aussi expulsé le coordinateur résident de l'ONU l'année dernière et le Mali a mis fin à une mission de maintien de la paix de l'ONU qui s'y trouvait depuis une décennie.
Par ailleurs, la journaliste nigérienne Samira Sabou, interpellée le 30 septembre et placée dans les locaux de la police judiciaire de Niamey, est désormais en liberté provisoire, ont annoncé mercredi Reporters sans frontières et son avocat. RSF qui dit que la journaliste est inculpée notamment pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, a demandé que les charges contre elle soient abandonnées, rappelant que Madame Sabou a été détenue en secret. 8 jours. Elle a été détenue au secret pendant 8 jours. Son avocat, Maître Ould Salem Saïd, a précisé à l'AFP que la journaliste a été entendue par un juge d'instruction et que l'instruction va suivre son cours. En République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a annoncé mercredi avoir pris des mesures fortes à l'encontre de casques bleus soupçonnés de fautes de conduite graves. Fatouma Kalala Alimassi.
Selon des documents internes consultés par l'AFP, 8 casques bleus déployés à Beni dans l'est du pays ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8 dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumée. Tous appartiennent au contingent sud-africain de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de violations systématiques et généralisées des règles de l'ONU contre l'exploitation et les abus sexuels. Les mesures prises incluent la suspension, la détention et le confinement des casques bleus concernés, ajoute la MONUSCO, qui dit condamner fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies et a rappelé la politique de tolérance zéro du secrétaire général de l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas a indiqué ce jeudi avoir tiré des roquettes en direction de Tel Aviv après des frappes israéliennes ciblant des civils dans 2 camps de réfugiés de la bande de Gaza, enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste. Des correspondants de l'AFP ont été témoins de dizaines de frappes aériennes jeudi matin en direction du camp d'Al-Shati et dans le nord de Gaza. Israël a mené hier des raids aériens dans la bande de Gaza pour le 5e jour consécutif. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken visite aujourd'hui Israël en signe de solidarité. Claire Morin-Gibourg.
Israël a poursuivi son pilonnage de la bande de Gaza. Le Hamas et le djihad islamique palestinien ont annoncé des tirs de roquettes contre le sud et le centre du pays. Le conflit a déjà fait des milliers de morts. Anthony Blinken arrive aujourd'hui en Israël pour une visite éclair au cours de laquelle il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a promis d'implacables représailles à la sauvagerie du mouvement islamiste palestinien. Le président Joe Biden a rappelé que l'appui de Washington à son pays était inébranlable. La Maison-Blanche s'est dit prête à déployer un second porte-avions. La lutte est dirigée contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien, ont précisé des responsables américains. Et les États-Unis ont salué la décision de l'Union européenne de maintenir son aide au développement destinée aux Palestiniens. Israël a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture à la bande de Gaza, territoire pauvre et exigu où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens. La Ligue arabe a condamné le siège de Gaza et a réclamé une aide immédiate. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un processus de négociation avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages israéliens.
Ici aux États-Unis, toujours pas de fumée blanche au Congrès. Les républicains de la Chambre des représentants n'ont pas réussi à s'accorder mercredi de manière suffisamment consensuelle sur le nom du prochain président de l'institution. Leur querelle fratricide paralyse le Congrès américain depuis plus d'une semaine. Les précisions de John Linden.
L'élu de Louisiane, Steve Scalise, désigné par la majorité de ses pairs lors d'un vote informel à milieu de journée mercredi, n'a pas encore convaincu suffisamment de trumpistes, c'est-à-dire des fidèles de l'ex-président républicain Donald Trump, de le soutenir pour accéder au perchoir. ce qui enfonce le Congrès dans la crise et paralyse la Chambre basse qui ne peut soumettre le moindre texte à un vote. Cette situation rend impossible le déblocage de toute aide supplémentaire à Israël, engagé dans un conflit avec le Hamas. En discussion depuis des semaines, l'aide à l'Ukraine est également bloquée. Monsieur Scalise est connu du grand public pour avoir été gravement blessé par des tirs lors d'un entraînement de baseball en 2017. Mais pour être élu à la tête de la Chambre des représentants, le quinquagénaire qui souffre d'un cancer du sang doit désormais être adoubé par 217 élus lors d'un vote en séance plénière dans l'hémicycle, probablement l'étape la plus difficile de ce processus. Ce vote n'a pas encore été programmé. Cela pourrait être une affaire de quelques heures ou de quelques jours. Rappelons que l'immense majorité des pouvoirs de la Chambre ont été suspendus par la destitution surprise le 3 octobre dernier du Speaker Kevin McCarthy.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Aux Comores, les recettes publiques sont largement alimentées par les impôts indirects qui représentent environ 75% des recettes fiscales. Mais la faiblesse de l'administration fiscale et les exonérations fiscales non évaluées réduisent la capacité du gouvernement à fournir des services publics essentiels et à libérer le potentiel de croissance du pays, note la Banque mondiale. Pour y remédier, les autorités devraient renforcer les administrations fiscales et réduire les exonérations. Pour y remédier, les autorités devraient renforcer les administrations fiscales et réduire les exonérations. La défense du milliardaire français Vincent Bolloré et ses co-accusés demandent à la justice française d'annuler toute la procédure dans l'enquête sur l'attribution de la gestion du port de Lomé au Togo. La justice, qui rendra sa décision en novembre, soupçonne le groupe Bolloré d'avoir utilisé l'une de ses filiales pour décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée entre 2009 et 2011. Monsieur Bolloré avait accepté une amende de 375 000 euros, mais le tribunal avait estimé que les trois co-accusés devaient comparaître au pénal. Pour terminer, ExxonMobil, le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de Pioneer Natural Resources, un autre grand producteur américain, pour 60 milliards de dollars.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc et le Sénégal en épouvantail du tirage au sort de la CAN 2023.
Oui, le Sénégal tenant du titre et le Maroc demi-finaliste du Mondial 2022 retiennent beaucoup d'attention dans ce tirage au sort qui a lieu aujourd'hui à Abidjan. On retrouve aussi dans le premier chapeau l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le pays hôte, la Côte d'Ivoire justement, tous anciens vainqueurs de la compétition et rangés parmi les principaux prétendants au titre continental. Le chapeau de compte, quelques clients et là aussi d'ex-lauréats à l'image du Nigeria, de l'attaquant de Naples Victor Osimhen, du Cameroun, du Ghana et de la République démocratique du Congo. Le Mali et le Burkina Faso complètent ce chapeau avec l'étiquette d'outsider. Pour Adou Mel, chroniqueur sportif que j'ai joint à Abidjan, le chapeau 1 regroupe les meilleures équipes d'Afrique du moment.
Ce sont des champions d'Afrique. Ces pays ne vont pas se retrouver dans une même poule. Donc, elles sont têtes de chapeau et ce sont les autres éléments qui vont se greffer sur chaque pays en fonction des poules.
On pourrait quand même s'attendre à des rencontres de choc dès la phase de groupe parce que dans le chapeau 2, il y a des pays comme le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Ghana ou encore le Nigeria, qualifié souvent d'outsider.
En dehors peut-être du Burkina qui arrive toujours avec de grosses ambitions, mais malheureusement après qui s'est mis en désillusion. Le Nigeria est un gros morceau, le Ghana également. Mais vous savez, comme par le passé, la seule évocation de ces noms donne des frissons. Mais la coquille, c'est comment aujourd'hui? Est-ce que ce sont des pays qui ont encore du répondant? Parce que nous savons, en dehors du Nigeria, qui s'est qualifié, je crois, avant terme, à deux journées de la fin, le Ghana a trimé. Le Ghana, il a fallu la toute dernière journée pour se qualifier, tout comme la RDC que vous avez hésité. Mais je puis aussi vous assurer que la RDC n'est pas ce gros morceau qui faisait peur il y a peut-être 30 ou 40 ans.
En termes d'organisation, est-ce que tout est fait près du côté d'Abidjan?
Ah oui, ça je peux vous le garantir. Hein. La cérémonie aura lieu au parc des expositions. C'est le nouveau parc qui a abrité le Sahara récemment. Je vous assure que c'est un chef-d'œuvre. Je crois que les choses vont très très bien se passer.
Adoumel, chroniqueur sportif. Pour rappel, 6 groupes de 4 équipes seront tirés au sort et de grosses affiches sont possibles dès le premier tour de cette CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes accéderont au 8e de finale.
Merci Yacouba. De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les autorités de transition font le bilan d'un an de la phase 2 de la transition. C'était à l'issue du dialogue national inclusif tenu à N'Djamena que les partisans de la transition ont plébiscité Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, le 10 octobre 2022 pour un mandat de 2 ans pour organiser les élections auxquelles il peut se présenter. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point de N'Djamena.
Célébrer un anniversaire comme celui de mon investiture qui marque l'an 1 de la phase 2 de la transition est loin d'être un moment de réjouissance mais plutôt un moment de rétrospective collective et d'évaluation, a déclaré le président tchadien de la transition Mahamat Idriss Déby Itno dans son message à la nation. Cependant, il rassure avoir déjoué la tentative de déstabilisation du pays au lendemain même du dialogue national inclusif.
Oui, nous n'avons ménagé aucun effort pour barrer la route à ceux qui ont voulu mettre le pays à feu à sang. Nous avons été ferme face à toutes les dérives.
Pour lui, la paix passe nécessairement par la poursuite du processus de la réconciliation nationale.
Les mesures de grâce, le retour des opposants politiques et armés participent de notre ferme volonté de cimenter le processus de pardon. J'ai saisi cette opportunité pour appeler une nouvelle fois tous mes compatriotes encore en dehors du pays, quelle que soit leur option de lutte, à faire confiance à leur pays.
Annonçant son retour pour le 18 octobre conformément à cette ouverture des autorités de transition, l'opposant Dr Succès Masra, qui était sorti du Tchad quelques jours après les événements du 20 octobre, a été non seulement visé par un mandat d'arrêt international, mais aussi ses militants qui se préparent pour l'accueillir malgré cette décision judiciaire ont été arrêtés le 1er octobre. Plus de 200 selon la direction du parti Les Transformateurs, mais des sources policières annoncent une cinquantaine d'arrestations.
Nous avons envoyé une correspondance au ministre de la Sécurité publique pour l'informer de l'arrivée de notre leader et compte tenu du nombre de personnes qui sont engagées à sortir pour accueillir notre président, nous avons pensé mettre en place une équipe de sécurité pour encadrer ces gens. Et ce sont ces jeunes-là qui sont en train de faire leur footing le matin. Ils ont été ramassés.
Docteur Tougui Nangorngar, secrétaire général du parti Les Transformateurs. Ces jeunes sont gardés aux renseignements généraux depuis le 1er octobre et ils dénoncent les conditions de leur détention.
On refuse qu'on leur donne à manger. On n'a pas accès à eux. Et aujourd'hui, nos avocats se sont débrouillés pour arriver là-bas. Et ce qui nous rapporte, nous préoccupe. Ces jeunes sont torturés. Ils sont entassés dans une cellule. Comment est-ce qu'on peut traiter ainsi des jeunes contre qui rien ne pèse en ce moment?
Saleh Kebzabo, premier ministre de transition, reconnaît que la phase 2 de la transition est marquée par la cherté de la vie.
La flambée des prix des denrées de première nécessité est inacceptable. C'est pour cela que j'ai présidé la semaine dernière une réunion consacrée à cette question et des mesures ne sauront tarder à être prises pour alléger les souffrances de nos populations dans la mesure des capacités du gouvernement.
Autre défi que les autorités de transition affirment avoir relevé avec succès, c'est la mise en place de tous les organes pour la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national. Ces structures ont contribué à l'élaboration de nouvelles lois et des textes contraignants pour assainir le cadre des élections à venir et ont obtenu un bon résultat par endroit. L'opération de la révision du fichier électoral qui déterminera la suite du processus. André Kodomadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Réinsertion socio-économique des femmes déplacées à Koro dans le centre du Mali. La ville de Koro, située dans la région de Banyagara, a accueilli un nombre important de personnes déplacées, dont des femmes. Maïmouna Goro est une femme déplacée de Dinagourou vivant à Koro. Elle a choisi la restauration pour sa propre réinsertion socio-économique et emploie d'autres femmes déplacées dans son restaurant. De Koro, notre correspondante Tidiani Ouedraogo.
Suite aux attaques des groupes armés, de nombreux habitants ont déserté leurs villages et hameaux pour se réfugier dans la ville de Koro.
À cause de l'insécurité, j'ai fui pour venir à Koro pendant que mon village de Nangourou était sous embargo par des groupes armés.
Les populations de la ville de Nangourou étaient sous blocus des terroristes. Impossible d'y entrer ou d'en sortir. Une situation qui a affecté l'état de santé de Maïmouna.
Avec l'embargo, j'ai fait 4 mois sans prendre le médicament, car ce n'était pas facile d'envoyer les médicaments ici. J'ai eu un convoi et je l'ai suivi pour venir à Koro ici.
Comme elle, beaucoup de femmes déplacées vivent depuis des années dans la ville de Koro, dans des conditions très difficiles. Certaines d'entre elles ont perdu leur mari suite aux attaques des groupes armés. Malgré cela, Maïmouna n'est pas restée les bras croisés.
J'ai ouvert mon restaurant. Je vends du riz, du haricot, du thon aussi. Le marché est bon, surtout les jours de foire de Koro.
Dans le cadre de la réinsertion socio-économique et pour aider à la stabilité des foyers, des organisations humanitaires appuient les femmes déplacées dans la ville de Koro. Djenebou Ongoïba est une bénéficiaire.
Grâce à l'appui que j'ai bénéficié, je puis acheter un congélateur. Je produis de la glace et d'autres formes de placer et revendeurs de la glace profitent aussi.
Malgré l'amélioration de sa situation socio-économique, Maïmouna n'oublie pas les bons moments passés avec son mari, décédé suite à l'embargo.
Mon mari était malade et nous étions sous embargo. Évacué à Sivari, il est décédé 2 semaines après son évacuation. Chaque fois que je suis seule, je n'arrête pas de penser à lui.
L'exemple de réussite de cette restauratrice inspire d'autres filles déplacées qui viennent apprendre le métier de la restauration. Pendant les jours de foire de Koro, le restaurant de Maïmouna ne désemplit pas.
Chaque fois que je suis à Koro, je mange dans ce restaurant. Elle fait des plats délicieux.
Malgré tout, elle prie pour le retour de la paix et de la cohésion sociale pour que toutes les femmes puissent relancer les activités génératrices de revenir dans les centres du pays. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique Koro.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Au Sénégal, le marché de Koloban à Dakar est un marché où l'on peut tout trouver, comme tout perdre. C'est l'un des plus célèbres et des plus anciens de la capitale sénégalaise. On y trouve du tout, des habits au téléphone portable en passant par les fournitures scolaires et la friperie. L'histoire de ce marché est également rattachée aux cas de vol fréquents que subissent les clients. Les riverains, eux, se battent contre les préjugés et la mauvaise réputation de leur quartier. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Considéré comme le trait d'union qui lie la banlieue au centre-ville de la capitale, Koloban et son marché sont des endroits de rencontre très fréquentés. De cette fréquentation naquit la mauvaise réputation de ce quartier de Dakar. Entre les vols, les pickpockets et les agressions, le quotidien de ce marché est rythmé par des forfaitures aux grandes dames des clients et riverains. Mbaïsou, habitant de Koloban.
On reconnaît que Koloban a une sacrée réputation parce que vraiment, il y a des coins chauds et des endroits où l'on trouve des personnes avec de bonnes intentions et d'autres avec de très mauvaises intentions. Par contre, ces malfaiteurs n'habitent pas le quartier. Ils viennent, font leur forfait, puis s'évaporent. Mais ceux qui habitent et travaillent ici à Koloban ne le font pas. Ces bandits qui ternissent notre réputation se cachent dans les champs jusqu'à la tombée de la nuit pour commettre leur forfait.
Nous commençons à agresser.
Une réputation peu flamboyante que les marchands tentent de reluire à leur risque et péril. Serdien, est un vendeur de friperies.
Chaque jour, on voit des clients passer en se disant qu'il faut surveiller leurs poches car ils sont à Colobane. Nous avons donc décidé de prendre en charge la sécurité pour sauvegarder nos commerces. Ainsi, nous formons des brigades et essayons de nous solidariser pour combattre la criminalité et chasser les voyous qui rôdent. Malheureusement, certains qu'on amène à la police n'hésitent pas à venir nous menacer dès leur sortie.
Malgré ces initiatives, la renommée de Colobane est toujours entaché, causant beaucoup de tort aux marchands de la zone. Mourou Ndong, habitué de Colobane.
Des fois, nous voyons de très jolis articles en vente sur les plateformes digitales. Mais quand on appelle et que le vendeur nous dit que c'est à Colobane, on hésite fortement. Des fois, on préfère envoyer les livreurs. Et même avec ça, c'est risqué car souvent, des gens sont arrêtés pour recel parce qu'on leur a vendu des articles volés. Autant de choses qui font qu'on se méfie énormément des produits venant de Colobane.
Ils sont des milliers de personnes à transiter par Colobane chaque jour et des centaines à se partager les cantines et le trottoir pour faire marcher leur commerce. Les habitants et les commerçants font tout pour se départir de la mauvaise réputation de ce quartier populaire et de son célèbre marché afin de préserver leur cadre de vie et leur business. Serina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'offensive du Hamas a suscité de multiples condamnations internationales ainsi que des inquiétudes face à l'éventualité d'un assaut terrestre sur Gaza, tandis que la situation reste tendue à la frontière d'Israël avec le Liban. Comment l'Égypte peut-elle user de son influence pour faciliter la médiation entre Israël et le Hamas et prévenir une escalade? Eric Manirakidza a joint à Tunis la journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, Frida Damani.
Alors, il ne faut pas oublier que historiquement, l'Égypte est quand même le pays qui avait, dès les années 70, signé un accord de paix avec Israël et qui, jusqu'à présent, tient la route. Aujourd'hui, l'Égypte a une position privilégiée parce qu'elle peut être un négociateur, par exemple, sur la question des otages actuellement avec le Hamas. Elle pourrait ouvrir des canaux de communication puisque, de toute façon, l'Égypte sait très bien ce qui se passe à Gaza. Il ne faut pas oublier que les services de renseignement égyptiens sont très, très rodés à ce genre de choses. Mais par contre, l'Égypte est aussi dans une crainte, c'est que le blocus là qui est fait autour de Gaza et tout ce territoire qui va être bombardé, pillonné, ou bientôt bien l'armée de terre va aussi lancer une offensive, parce qu'actuellement il y a des attaques aériennes et maritimes, mais pas encore d'offensive terrestre, ça va arriver, ça a été annoncé. À partir de là, il y aura une population de civils qui va vouloir échapper à cette bande. Et la seule voie d'issue, c'est justement entrer en Égypte par les checkpoints qui sont disposés le long du Sinaï. C'est à ce moment-là qu'il devient très très fragile, très sensible plutôt pour les Égyptiens, parce qu'il va leur falloir trier entre ceux qui sont des civils tout à fait normaux et ceux qui pourraient être des membres de Hamas qui voudraient s'infiltrer en Égypte. L'Égypte actuellement est à la veille d'élections présidentielles en décembre 2023, où le président Sisi se représente donc à sa propre succession, et il ne saurait être question pour eux de réveiller aujourd'hui le mouvement des frères musulmans qui se pourrait reprendre du service à faveur de cet embrasement autour de Hamas. Donc tout ça rend la négociation égyptienne très délicate. L'intérêt de l'Égypte serait de dire stop, enfin, que tout s'arrête, que tout rentre dans l'ordre le plus vite possible. Et elle va tout faire pour. Elle n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un conflit à ses frontières. Ce conflit risque de faire tache d'huile dans toute la région.
Comment l'Égypte peut-elle collaborer avec les parties impliquées pour parvenir à une résolution rapide et sécurisée, tout en maintenant des relations diplomatiques solides avec Israël et le Hamas?
L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, les Égyptiens sont très très connus pour leur entre-gens, pour leur lobbying. Et puis l'Égypte joue son rôle de leader parmi les pays arabes. Elle reste dans une continuité historique. Donc, ceci dit, les Égyptiens ont tout à fait l'habitude de travailler avec des homologues israéliens et également avec des homologues palestiniens, pas uniquement Hamas dans la bande de Gaza, mais également d'autres représentants de l'autorité palestinienne.
Frida Damani, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, jointe à Tunis. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloulia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, Lex, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.